c'est que tu goûtes. Et au passage tu laisses au diable les coordonnées de ton corps damné. Faut gérer ses efforts comme un accord d'ameux. Et si tu doutes t'en as marre, autour de ma vie t'accroches t'en as marre. Là où j'appuie ton épargne, contre un sourire on t'héberge. Par contre évite les trucs plus, j'ai lancé le coup de la corde à linge. Passe, passe loin, je garde du monde dessus, même sans dessus dessous. On a le sens du partage tu sais, allez finis ça cul sec. Si tu sens que tu frises, change tes cordes de guitare. Ici mes gars je vous en frette et l'on ne croit pas au hasard. Comme le corset de ces dames hautement serrées, alors faire cher béni par une corde en cuir au bout d'un manche. Bref, histoire d'un soir drôle d'époque. À la télé quand je zappe au Québec, un gay découpe un chap. La chaîne d'après, la corde d'Alfred Hitchcock. Plus de corde au cou, même pour les violents de gamine. Au mal subsiste la guillotine, c'est ça que le soir mes clefs surinent. L'espoir en ligne de vie, moi, franquise de vie. Pour ma part, je monte pas sur scène, je passe plutôt les cordes du ring. Crois en quoi au bout d'une cordelette? Non, plutôt mon corps en flamme au fond de l'étnave. On me fait rouler, man, j'ai déjà les gars. Cordon de capuche en guise de caronan. Plus trop traîné qu'une gare du Nord, je n'affranchis comme Ray Liotta. Ici, les fils maquillent un max, soit d'accord pour les sauter. Pendant que les hommes tapent leur boxe à la corde à sauter. Si un jour entre nous le fil casse, sache qu'il existe un tas de nœuds. Par contre, si la faucheuse passe, gars, lâche, n'y pourrait rien, vieux. Lise tes poils tant qu'il est encore temps. Agrippe tes bouts, qu'importe le temps. Suivre son but est le plus important. J'entends la foule, j'attends en stress que le rideau se lève. Ça me rappelle les matins où je me disais qu'il est idiot ce rêve.
Les variantes, le DBZ, le DB, enfin tout cet univers, toute cette ramification, est-ce que ça continue à produire, alors en dehors de Sion Origin, dont on parlera tout à l'heure, parce que tu es scénariste de ce manga-là, mais est-ce que ça continue à produire et comment est-ce qu'on reste cohérent dans cet univers quand il y a autant de production?
Alors effectivement, à l'époque, on avait eu Dragon Ball, le premier du nom, avec le personnage Goku qui était enfant. Ensuite, on a eu l'animé Dragon Ball Z, où il avait grandi, il était devenu adulte, père de famille. Et à la suite de cela, on a eu ensuite Dragon Ball GT, où il était devenu grand-père. Et maintenant, on a Dragon Ball Super, qui vient toucher à toute cette nouvelle génération. Et tu as mis le point là où il fallait. Comment on fait pour devenir cohérent dans toutes ces histoires? Ah bah c'est qu'aujourd'hui, en fait, ils ne le sont plus. Ils ne sont plus.
Ah oui, c'est complètement incohérent.
Non, vraiment, aujourd'hui, avec Dragon Ball Super, en fait, ils nous ont fait comprendre que, voilà, Toriyama, Akira Toriyama, qui nous a quittés malheureusement.
Qui est l'auteur original. De Dragon Ball, ouais.
Voilà, l'auteur originel. Il a délégué cela à Toyotaro, qui s'occupe, de Dragon Ball Super. Et il lui a laissé carte blanche. C'est-à-dire que Toyotaro, pour lui, avec l'accord de Toriyama de son vivant, avant qu'il nous quitte, ils avaient décidé que Dragon Ball Super allait être une suite alternative. Donc, c'est-à-dire une timeline différente, comme si on était dans un futur différent. Ce qui lui permet en fait d'avoir carte blanche et du coup on a des incohérences si on doit essayer de tout recoller aux 42 tomes originels de Toriyama, les tomes, les mangas. Mais en revanche, si tu fermes les yeux et tu te dis je me déconnecte, je regarde à nouveau, je découvre une nouvelle œuvre, là ça reste cohérent.
Ah oui, ça reste cohérent quand on redécouvre, parce qu'il y a ça aussi, voilà. Enfin, il y a la cohérence de l'histoire, mais il y a la cohérence de l'univers aussi, et de l'ambiance. Et là, ça va, sur l'ambiance et l'univers, on est ça va?
Voilà, c'est ça, au niveau de l'ambiance, l'univers, les transformations, les bagarres qu'il peut y avoir, là on est bon, là-dessus il n'y a aucun problème.
Alors justement, j'arrive à toi, tu t'es approprié aussi cet univers de Dragon Ball, tu es sur un manga, donc tu es scénariste, c'est Saiyan Origin. Alors pareil, comment ça se passe de rentrer quand on veut être scénariste d'une nouvelle extension de Dragon Ball?
Alors déjà, c'est beaucoup de travail, même beaucoup plus que ce que je ne l'avais imaginé. Moi, en revanche, j'ai pas voulu faire une suite. Je suis parti dans le passé, un préquel, en fait. C'est-à-dire que
avant Dragon Ball, l'origine, quoi, l'originel, ouais.
Totalement. D'accord. Je suis parti avant Dragon Ball. On connaît le héros Goku. Moi, dans mon manga, il n'y a pas Goku. Il y a le père de Goku. Il y a également le Vegeta, on voit adulte. Et bien, du coup, là, il est enfant. Et on y découvre sa mère et son père également. Donc en fait, j'ai voulu écrire une histoire, un scénario qui tenait la route avec le manga originel de Toriyama. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas voulu faire une suite alternative qui ne tient pas la route. J'ai fait une suite qui est en raccord avec ce que l'auteur Akira Toriyama avait fait. Donc voilà, j'avais écrit pendant des mois et des mois. Et ensuite, avec mon équipe, voilà, on s'est retroussé les manches, on a travaillé. Et on a fait un tome qui retrace les origines des Saiyans. Donc Saiyan Origins, pourquoi? Parce qu'en fait, Saiyan, c'est la race de Goku. C'est un extraterrestre qui vient d'une autre planète. Et du coup, ça traite justement tout le lore de toutes ces traces, avec ses parents, avec l'antagoniste Freezer qui avait manipulé les Saiyans à cette époque-là. Et on apprend beaucoup plus de choses, et surtout, il y a des subtilités, parce que dans Dragon Ball, on voit des attaques, on voit des pouvoirs, etc. Et bien du coup, je donne naissance à la création d'où viennent ces pouvoirs. Voilà, il y a des choses qui sont racontées justement.
Quand on écrit autour de Dragon Ball, j'imagine que les gens ont un regard là-dessus, ils sont attentifs, oui. On te dit t'as pas le droit, t'as le droit, tu peux pas, parce qu'en fait tu t'inscris en plus dans une genèse de l'histoire. Donc est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont déjà fait par exemple ça? Et surtout, comment est-ce que t'es observé par la communauté Dragon Ball?
Alors effectivement, les doujinshi, je ne suis pas le seul à l'avoir fait, il y en a eu plein d'autres, hein, des Dragon Ball Kakumei, Multiverse, etc. Enfin, même partout dans le monde, et même en allant au Japon, je me suis déjà déplacé à plusieurs reprises au Japon, il y a des magasins spécialisés justement pour les doujinshi, des préquels et même des histoires alternatives de Dragon Ball. Donc là-dessus, je n'ai rien inventé. En revanche, au niveau de l'histoire, honnêtement, hein, j'ai pas envie de me gonfler les chevilles, ce qui ressort de la communauté, c'est que je suis certainement l'un des seuls mangas préquels qui tient la route avec les 42 tomes de l'auteur lui-même, qui ne dénaturise pas ce que l'auteur avait fait. Parce qu'il y en a, voilà, ils vont vouloir mettre leurs propres petites touches avec des transformations qui, par exemple, n'existaient pas. Et du coup, bah, ça ne reste pas cohérent avec ce que l'auteur avait fait. Non, moi, j'ai repris vraiment tout ce qui existait déjà. C'est pour ça que j'ai voulu retourner dans le passé pour ne pas inventer quelque chose qui n'existait pas. J'ai voulu rester avec ce qu'on connaissait de l'univers Dragon Ball, et franchement, ma communauté ont été au top du top. Ils ont accueilli ça à bras ouverts. Pour te dire, 99% ont vraiment aimé l'histoire, donc c'est cool.
Pour le moment, il y a un tome.
Et ça restera juste
ça restera un tome.
Ouais,
c'est un one-shot.
One-shot de 236 pages qui traite justement les origines des Saiyans. Parce que plus tu vas vouloir faire de tomes, forcément, au bout d'un moment, tu vas aller dans l'incohérence. Et j'ai pas voulu ça.
Sachant que c'est une des particularités du manga, c'est les séries à 50 tomes, 60 tomes, 120 tomes, oui, enfin One Piece, là on les compte même plus,
One Piece,
114 ouais. One Piece, c'est quand même une spécialité du manga, le nombre de tomes.
Ah oui, clairement, surtout dans les shonen, donc ouais, comme One Piece, 114 tomes, on a même eu les chiffres qui sont tombés il y a de ça deux jours, 600 millions d'exemplaires vendus dans le monde, c'est énormissime, c'est le manga qui a fait le plus de ventes dans le monde entier, je crois qu'on se rend compte, et ensuite juste après Dragon Ball, qui est à entre 400 et 500 millions. Mais enfin, franchement, c'est une folie. C'est vraiment une folie.
C'est voilà, un truc qui fonctionne. La recette, pourquoi ça a fonctionné? Toi qui es un spécialiste quand même de cette culture geek, quand on dit c'est Sofiane le geek avec nous, il est geek Sofiane quand même, non?
Effectivement, oui, voilà.
Qu'est-ce qui fait que la recette fonctionne sur un Dragon Ball? Pourquoi ça continue, je ne sais pas, c'est une trentaine d'années d'existence, un truc comme ça, même plus d'ailleurs, oui, hein, j'ai des bêtises.
Depuis 1984, en fait ça a 40 ans. Ça a commencé,
40 ans,
ça a commencé le 21 novembre 1984, la première parution dans le Shonen Weekly Jump au Japon. C'était la première apparition du tout premier chapitre de Dragon Ball, et depuis ça n'a jamais cessé, la hype est toujours restée présente. Pourquoi? C'est parce qu'en fait Akira Toriyama, à l'époque, il a été précurseur, il avait trouvé une formule qui n'avait jamais été faite auparavant. Il s'est beaucoup inspiré des films, des arts martiaux, c'est-à-dire Bruce Lee, Jackie Chan, les films Jurassic Park, Terminator, en fait tout ce qui fonctionnait bien dans le cinéma, plus tout ce qui fonctionnait bien dans les arts martiaux. Il a fait un mix de tout cela et on a découvert une œuvre qu'il a créée de toutes pièces avec des innovations. Des choses, c'est-à-dire le petit garçon Goku qu'on suivait quand il était enfant, lui il a pris le risque, c'était un des seuls mangaka à le faire, dire il va devenir grand. Son éditeur, qui était Monsieur Torishima à l'époque, a dit « Ouais, mais attention, on prend un risque parce que les fans sont habitués à un petit garçon. Tu vas le faire grandir, ils vont délaisser l'œuvre. » Il a dit « Non, non, moi je veux aller dans cette direction. » Et il a bien fait. Même les transformations, ça a été le mangaka précurseur où on a un personnage qui a les cheveux noirs, qui va s'énerver. Ils vont se redresser, ils vont avoir une chevelure d'or, le Super Saiyan. Ça a été révolutionnaire. Même Sonic s'en est inspiré de tout cela. Donc en fait, Dragon Ball, aujourd'hui, a réussi à marquer son empreinte de par ces innovations faites par le mangaka Toriyama.
Jacob.
Je tiens à préciser que Akira Toriyama n'a pas inventé le système de transformation. C'était quelque chose qui était déjà présent. C'est juste qu'il a contribué à sa popularisation.
Alors effectivement, il a contribué à sa popularisation, mais la transformation iconique aujourd'hui dans les mangas que tout le monde retient et qui a été reprise à plusieurs reprises d'ailleurs dans les autres mangas, c'est le Super Saiyan. Effectivement, on avait par exemple des transformations dans d'autres petits mangas avec Astro Boy, le petit robot qui était déjà un shonen précurseur. On a eu du Goldorak, etc. Mais la véritable transformation du protagoniste qu'on suivait, qui change de couleur de cheveux, de comportement également et de caractère, ça a été Dragon Ball qui a ramené vraiment cette flamme. Voilà.
Sur toute cette culture geek, tu le disais, Sofiane, bientôt 40 ans. Bon, et Sofiane, au bout d'un moment, on va grandir.
Effectivement.
Où est-ce que ça fait partie de grandir justement avec tout ça? C'est un peu provoque, mais.
Non, mais bien sûr. Mais en fait, aujourd'hui, je pense que les mangas, c'est rentré dans les nerds. Ce n'est plus pour les jeunes ados ou les enfants. En fait, aujourd'hui, les gens ont compris que c'est intergénérationnel. Un manga comme Dragon Ball, tu peux avoir 10 ans, tu peux l'aimer, tu peux avoir 50 ans, tu peux l'aimer. Et on le voit aujourd'hui, les gens qui ont grandi comme moi avec le Club Dorothée, on n'a pas démordu de Dragon Ball. On est resté attaché à cela. Parce que ça raconte une histoire comme si on suivait une série, en fait, sur Netflix, un film ou au cinéma. Voilà, on a l'habitude de voir voilà, tous les opus sortir. Bah, Dragon Ball, c'est pareil. Donc je pense que je reste ouais, peut-être un enfant dans ma tête via la nostalgie. Mais j'ai envie de rester comme ça et de ne pas changer.
Il y a deux volets quand même. Donc, quand on parle de manga, on parle des animés et des mangas. Quand je parle manga, c'est des livres manga et des animés qui sont les séries animées. Ça a la même valeur à tes yeux, ça a la même importance à tes yeux. Il y a un truc qui arrive bien à se transmettre entre le papier et l'écran.
Alors en fait, bah, tout dépend du studio d'animation. Par exemple, pour moi, le manga papier, c'est ce que l'auteur lui-même a réalisé. Donc ça vient voilà, de son cœur, de son imagination. Donc pour moi, Dragon Ball en manga, ça restera toujours la masterclass absolue. Ensuite, on a eu l'animé qui a été réalisé par la Toei Animation. Et je trouve qu'ils l'ont sublimé quand même. Ils ont sublimé le manga parce qu'ils ont respecté les codes que l'auteur avait instaurés. Et derrière, ensuite, il y a eu les OST, voilà, les ambiances, les musiques, les bruitages, les seiyuu japonais qui sont les comédiens de doublage et même les comédiens de doublage français qui ont fait un travail vraiment remarquable. Et parfois, on a des mangas qui se retrouvent avec une série d'animation japonaise qui dénature un petit peu le manga papier de l'auteur, malheureusement.
Parce qu'il y a une question culturelle aussi là-dedans. Enfin, on ne l'a pas abordé là, mais il y a une question vraiment culturelle entre la culture nippone, qui est l'endroit où sont nées toutes ces histoires et où elles ont été écrites, et notre culture européenne. Il y a quand même tout un fossé qui est parfois pas facile à passer.
Bah bien sûr, hein, de toute façon, déjà à l'époque, dans les années 80 et 90, on l'avait bien vu, le passage voilà, des mangas et des animations japonaises en France a été très compliqué. On a eu des politiques qui ont fait, qui ont commencé à contribuer à l'arrêt du Club Dorothée, en disant que voilà, si
ça rendait débiles les gamins, ils disaient.
Bah, ils disaient, on va être débiles et on va tous devenir violents. Bon, ça va, j'ai 39 ans, j'ai 3 enfants, je suis marié. Au contraire, je me porte très bien et je ne suis pas violent. Non, on arrivait en fait à faire la part des choses. Mais vu que c'était nouveau et qu'on était habitué au Disney, aux bandes dessinées, Tintin, voilà, les aventures de Tintin, etc. Pour eux, c'était quelque chose de nouveau. Ils n'avaient pas la maîtrise du sujet. Et je pense qu'ils ont eu des craintes. Et quand le Club Dorothée, ensuite, s'est arrêté, derrière, ils ont vu que ça a continué tout de même, les mangas, avec, voilà, à l'époque, c'était TPS, Canal Satellite et tout ça, les chaînes sur le câble, et puis Internet, ensuite, qui est arrivé. Et puis, finalement, ils se sont rendus compte qu'on n'est pas devenus fous, on n'est pas devenus des gens violents, des gens complètement malades, mentaux. Et ils se sont dit, bon, on a peut-être fait une erreur. Et puis, maintenant, voilà, je pense que c'est rentré dans les nerfs, tout simplement, quoi.
Damien, à la question, parce que lui, pareil, hein, il a grandi avec ça.
Hein. Et cette boule de cristal.
Ben voilà.
Ouais. Moi, je suis de la première génération. J'ai kiffé, j'ai décroché, mais j'ai kiffé. Hein. Je renie pas. Là, il y en a un nouveau qui va sortir en long métrage. Avec, j'ai vu quelques extraits des effets visuels qualitatifs. Est-ce que tu en sais un peu plus? Est-ce que l'histoire, ça va être cohérent? Est-ce que là, comme tu l'évoquais tout à l'heure, non, on est décalé. Est-ce qu'il est attendu par la communauté? Est-ce que quoi?
Eh bien, effectivement, oui. Alors, comme je disais, maintenant, la licence Dragon Ball se nomme Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, c'est fait par Toyotaro, qui a pris le flambeau de Toriyama. Toriyama, de son vivant, il supervisait tout cela. Et on a eu, du coup, le manga Dragon Ball Super et l'animé Dragon Ball Super. Mais l'animé Dragon Ball Super a eu une pause. Arrivé au 131e épisode, on n'a plus rien eu depuis 2018. Et là, ça y est, il revient. Ils ont fait une annonce il y a de ça 3 semaines lors d'un événement officiel de Dragon Ball, nous disant qu'on allait avoir la suite de l'animé Dragon Ball Super, enfin, qui allait arriver. Donc, dans un sens, tant mieux, ça veut dire qu'ils prennent le temps de bosser et de travailler l'animation. Et surtout, ils veulent carrément refaire tous les premiers épisodes de Dragon Ball Super qu'ils avaient fait avec une nouvelle patte graphique bien plus bossée. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment très intéressant, surtout pour la nouvelle génération. Ils vont pouvoir tout redécouvrir de A à Z. Et oui, c'est très attendu par la communauté parce qu'on n'a rien vu à part un seul screen, c'est-à-dire un seul dessin pour la suite de l'animé. Ça a fait plus de stats que le trailer du film Mario au cinéma. C'est quand même un truc de fou. Voilà.
Merci beaucoup à toi, Sofiane le Geek, d'être passé par nos micros. J'ai envie de dire, Dragon Ball n'a plus aucun secret pour nous, mais c'est pas vrai, parce qu'en fait, c'est une œuvre non, mais tellement large, tellement énorme, qu'il faudrait toute une vie pour en faire le tour, ou avoir commencé à 6 ans, comme Sofiane, en fait, hein, pour en faire le tour. Merci beaucoup à toi, Sofiane le Geek, d'être passé par nos micros.
Avec
Je me retourne vers Damien pour savoir si on peut avoir du Werris Kebab quand même au bout d'un moment.
Ben oui. C'est Bernard Minet.
Superstar, les Werris Kebab hein, sur l'antenne de Principe Actif qui accompagneront les petits Jésus voyageurs ce soir à la Brasserie Sport pour un combo musical ô combien sympathique à venir.
Vous écoutez Principe Actif.
J'ai jamais rien entendu d'aussi ébouriffant.
À Évreux, 102.4. Sud de l'Eure, 95.9. Et partout ailleurs sur principeactif.net. Principe Actif, le mix des cultures.
On continue notre tour des stands, plateaux, structures, associations, membres de cette belle convention qu'est la Pop'n Geek à Conchanouche. Ça se déroule, je vous parle en direct d'un des gymnases, Pierre de Coubertin de mémoire, en tout cas ils sont deux, je crois que c'est un des deux. C'est peut-être Pierre ou Coubertin, on ne sait pas, on n'a qu'à chercher, on trouvera. C'est aujourd'hui mais c'est demain aussi, c'est juste incroyable. Oui, on peut acheter des choses mais on peut aussi juste profiter et régaler nos yeux. Et par exemple, l'association qui est juste à côté de la radio, R2D2 Builders, l'association et la partie francophone, rien que cela, déjà, c'est quelque chose. Bonjour les gars.
Bonjour.
Merci, je vais vous redemander vos prénoms. C'est
Sylvain et Laurent.
Et Laurent. Salut les gars et merci de prendre un instant. C'est impressionnant, c'est visuel. On a en l'occurrence combien de modèles ? Deux mobiles et un troisième pour des démonstrations de R2D2 là ?
Alors, il y a deux modèles type R2, R6 ou autre, en construction mobile fonctionnelle. Il y en a un qui est en construction, en impression 3D. Et on a aussi un Rex de Star Tour Disneyland qui est aussi motorisé, opérationnel.
Alors c'est marrant parce que vous me disiez tout à l'heure en micro, c'est une association internationale. Vous avez des membres un peu partout dans le monde, des copains dans les pays frontaliers de la France. Et vous, vous êtes un peu l'enclave francophone, on peut dire ça ?
C'est ça.
Ouais.
Donc nous, c'est francophone. Donc il y a des Français, on a quelques Belges francophones aussi. Et il y a du Québécois.
Et du Québécois.
On a un ami au Québec.
Alors, ce qui est marrant, c'est que ça vient d'un peu partout dans l'heure. Il y en a un d'Évreux, il y a un local de Conches.
Moi, je suis de Lille.
Voilà, de Lille, bienvenue à Minordiste.
Je suis normand, hein, mais j'habite à Lille maintenant.
Oui, mais c'est, bah, écoute, d'adoption. C'est cette passion pour l'univers Star Wars, mais quand même plus précisément, les R2.
Oui.
Parce qu'il faut préciser, il y a plusieurs modèles liés.
Oui.
Oui, on sait combien il y en a.
Il y a 9 modèles différents.
D'accord.
Type R2. Après, il y a plein de droïdes parce que du coup, l'association est aussi ouverte aux autres droïdes.
Merci.
Mais toujours de l'univers Star Wars.
Toujours.
Même si on a un Wally.
Ouais, mais la classe, il est la classe celui-là.
Il est vraiment chouette.
Ouais, ils m'ont montré une photo, j'y sais, elle est incroyable. Vous étiez à une convention, vous étiez je sais pas combien. Et il y avait une trentaine de R2, R6. Enfin, il y a quasiment tous les modèles.
Presque. Deux fois par an, on a une grosse convention en Belgique qui réunit les associations France, Belge, allemande, anglaise, et du coup on se retrouve facilement à 30 ou 50 robots de l'univers Star Wars, tout confondu.
Alors comment on procède ? Il y en a un qui est un peu dans l'équipe, dans le collectif, dans l'association, qui a plus de spécificités ou de connaissances par exemple dans le domaine moteur, batterie, alimentation, mouvement, et d'autres qui vont être davantage sur la carrosserie, la coque, l'œuvre.
Après, ouais, ça va être suivant chacun. Parce que moi, par exemple, je suis un des tout premiers à avoir fait intégralement en impression 3D.
D'accord.
Parce qu'on a les plans papier avec toutes les cotes officielles. Et donc, moi, j'ai tout reproduit sur mon logiciel 3D. On a un copain qui, d'origine, est électricien, machin, etc. Donc, toute la partie un peu électronique, électrique, quand on a un doute ou quelque chose, on lui demande.
Il va gérer.
Il nous trouve des trucs. C'est, voilà. Donc, chacun peut avoir un peu sa spécialité.
Et toi, par exemple ?
Moi, par exemple, j'avais plus de facilité avec une scie sauteuse et du bois. Donc, je l'ai fait en bois. Et la tête, c'est une lampe IKEA, par exemple.
Il y en a un qui est ici, en exemple, derrière
nous. C'est le rouge et noir, qui est en bois. Et tous les autres sont en impression 3D. Là.
Ouais, c'est incroyable. Ouais. Et tu dis, vous avez les cotes, les mesures. En fait, il y a la licence Star Wars, le propose, le partage. Ou alors, vous avez geeké, vous êtes passé entre les
non,
lignes.
Non, c'est à l'époque, en fait, l'association américaine, dont toutes les instances au monde dépendent.
D'accord.
Un petit peu. Ils ont eu l'occasion d'aller chez George Lucas.
Rien que cela.
Au Lucas Ranch.
Ouais.
Pour pouvoir prendre les différentes mesures dans tous les sens du R2.
D'accord.
Pour pouvoir faire les plans et reproduire, pour faire vivre la licence. Et aujourd'hui, donc, que ce soit donc la partie US ou toutes les parties France, de tous les pays, on est partenaire Lucas Disney.
Ah, j'y sais, c'est
donc on est
sérieux,
valide
hein.
Avec eux. Et de temps en temps, ils nous envoient un petit mail pour dire « Ah tiens, il y a tel truc que Disney participe, est-ce que vous pouvez y aller ?»
Génial.
Et pour les sons des R2 qui sont très nets, en fait, on n'a pas enregistré le film et on a enlevé les voix. C'est directement Ben Burtt qui était le monteur son du film qui a fourni les fichiers master à l'assaut américaine.
Génial.
Et du coup, on les
partage. Qui les repartage à vous.
Voilà. Donc, on a les sons purs.
Ouais, les vrais.
Que lui
les
sons originaux.
Ouais. Ah ouais, la classe. Ah, oui.
Parce que c'est vraiment la particularité du R2D2 quand même. Le R2, c'est vraiment le son. Oui. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'il est codifié ce langage? Est-ce que vous qui êtes dans les petits papiers des R2, il y a une codification du langage?
Pour le langage de R2 pur,
ouais.
Sincèrement, je ne sais pas.
Non, après, ils ont quand même fait des sons qui rapprochent certaines émotions. Par exemple, il y a un son de triste qui fait...
Oui, oui.
Voilà, donc...
Il y a plusieurs catégories de sons qui correspondent...
Qui viennent quand même relancer sur...
Il y a quelques sons qui font un peu plus scolaire. Il y a des sons d'alarme, donc du coup, qu'il est un peu... Voilà,
il a quand même quelques émotions.
Ouais, ouais, il y a de la particularité.
Le R2. Question presque celle qui peut créer la polémique. Dans l'univers Star Wars, il y a plusieurs volets de Star Wars. Et alors, au bout d'un moment, quand on est dans l'association R2, bah ouais, c'est ça. Ah ouais, bah ouais. Là, on l'a R2. Hein. Et quand on est passionné comme ça de R2. Quand on parle de R2, on s'arrête à quel volume, à quel volet, à
4,
quel
5,
truc
6.
4, 5, 6, on est d'accord?
Les originaux, la toute première trilogie. Quoi.
Voilà, la première trilogie, 4, 5, 6.
Moi, je suis plus de 1 à 6.
Ouais, ah, moi aussi, ouais. Je suis un 6. Moi, je suis un 6 aussi. Après, j'ai plus de mal.
Il y a des bonnes choses.
Parce que le 7, 9, quand même, on est ailleurs.
C'est différent.
Ne nous cherche pas, là.
On va
rentrer en colère. Là.
Moi, je reste tolérant quand même. Même si, voilà, clairement, c'est un 6. Terminé, bonsoir.
7, 8, ça peut se regarder. Le 9, clairement pas.
Ouais.
Sur toutes ces mine de rien, on est quand même dans une culture Star Wars. Là, on n'est pas juste dans un film ou dans un. Non, on est dans une culture Star Wars qui a révolutionné quand même aussi la science-fiction. Enfin, la façon de réaliser des films. C'est peut-être pour ça aussi que ça s'arrête jamais, qu'il y a toujours une continuité là-dedans. On a par exemple pas loin de chez nous des clubs de sabre laser, par exemple. Alors rien à voir avec les R2, hein, mais on est quand même dans une continuité de cet univers.
Il y a un club à Breteuil, c'est des amis. C'est...
Ouais.
Ah oui, c'est-à-dire que il y a des liens, lien Star Wars
on
est
se
là.
Connaît.
On se voit sur les salons, sur les conventions, on se retrouve souvent. Avec beaucoup d'autres associations.
Et ils font pas de combat avec vous, ils savent qu'ils ont perdu.
Non, on n'a pas de sabre.
Oui, c'est vrai.
Il y a des signes de reconnaissance Jedi ou pas? Il y a des signes de reconnaissance Jedi entre l'univers Star Wars.
Ils font des signes de main.
Et les gars, vous êtes amenés, là, il y a une convention qui est plus locale. Bon, toi, tu viens du Nord, il y en a parmi vous qui étaient Évreux, Conche Compagnie. Partout en France, en fait, alors, j'imagine.
Oui, parce qu'en fait, on a trois gros groupes qui font régulièrement des conventions. Donc nous, la partie Nord, donc la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, on se retrouve vraiment tous régulièrement. On a un petit groupe de 3-4 qui sont du côté de Strasbourg. Donc pareil, ils font souvent dans leur coin. Et on a encore un autre groupe important dans le Sud.
D'accord. Ah, vous arrivez à couvrir tout le territoire français.
Voilà,
c'est ça. Du Après, il y a moins de gens dans le Sud-Ouest. Là, on n'a personne même.
Voilà. Et on doit en avoir deux aujourd'hui maintenant en Bretagne.
Ouais. J'avais demandé pour la Bretagne.
Voilà.
Il y en a.
La communauté, elle est liée comment? C'est un groupe de discussion? C'est une communauté ouverte? On peut accéder? On a un fan de l'univers? On peut voir un peu vos infos?
On a un site internet.
D'accord.
Après,
qui s'annomme du coup
R2builders.fr.
Voilà. Merci.
Tout à fait.
Dans lequel, après, il y a le forum où chacun peut s'inscrire pour dire voilà, j'aimerais bien construire un R2, etc. etc. Et après, il y a vraiment l'association où là, chacun paye sa cotisation. Et là, il y a un petit peu plus d'infos, plus d'échanges, de partage.
Et sur le forum, on a des parties. On a une partie électronique, on a une partie travail du bois. Pour chaque partie du corps aussi, on a une partie pour comment on fait les jambes. Il faut voir aussi sur quelle base les gens partent. Si on part sur une impression 3D. Donc on va avoir une catégorie impression 3D qui s'agrandit de plus en plus en ce moment puisque...
Oui, c'est davantage accessible que la pratique manuelle comme toi, tu vois.
Et quand on a une bonne imprimante 3D, c'est le plus abordable à l'heure actuelle.
C'est combien d'heures quand même en moyenne, tu arrives à quantifier bien sûr, mais on est sur une centaine d'heures, on est sur des dizaines d'heures, on est quoi?
Des milliers d'heures.
D'accord, ah ouais.
Ouais, ouais.
Chaque petite pièce...
On estime à peu près quand une personne peut faire que ça et qu'il a le budget pour faire que ça, en 6 mois, il peut faire quelque chose. Mais c'est non-stop.
D'accord.
C'est toute la journée, machin, etc. Et il faut avoir les connaissances pour pouvoir tout faire d'un coup.
Faut tout avoir, les outils, voilà. les machines.
Après, en général, ça s'étale plus sur 3, 4, 5 ans pour pouvoir faire quelque chose qui est relativement fini. D'accord. Mais bon, c'est jamais fini. On a toujours un truc à refaire dessus, une amélioration.
Justement, là, on parlait de temps. Moi, j'ai eu envie de parler d'espace plutôt. À la maison, ouais. Et là, je vois bien que je mets encore le doigt sur un truc. L'espace que ça prend dans la maison, en termes de volume au-delà du temps. Et quelle négociation familiale on est obligé